Une causerie philosophique, comment dire, une façon d'initier des gens, d'entretenir des gens à propos de sujets qui ont une connotation philosophique. Tel que je l'ai conçu, c'est une opération qui se déroule en deux temps. Il y a d'abord un exposé que je fais à propos d'un thème. Samedi, ce sera sur l'amour humain. Dans le passé, on a parlé de l'utilité des utopies, par exemple, ou de choses comme ça. Donc, ça peut être très varié. Donc, il y a un exposé qui est fait, qui dure à peu près 60 minutes, parfois un tout petit peu plus. Et après, effectivement, il y a une possibilité pour les gens qui sont là de prendre la parole et de poser des questions, de réagir. Donc, c'est le côté causerie qui se déroule. D'habitude, ça se passe effectivement assez bien, même très bien.
Pourquoi consacrer une causerie philosophique à l'amour? Est-ce que c'est nécessaire?
Ah ben écoutez, je suis parti du principe que c'était la médiathèque qui a accepté que je fasse les interventions bénévolement. J'avais fourni une vingtaine de sujets possibles à la direction de la médiathèque, qui en a retenu 10, je crois. Bon, je pense qu'effectivement, le problème de l'amour peut effectivement intéresser, à mesure où ça concerne tout le monde. On voit ça dans la littérature, au cinéma, partout. Et je pars pas uniquement de philosophie, mais je vais parler de la conception qu'avaient les Grecs de l'amour. Eux n'avaient pas qu'un seul mot, comme la langue française, mais avaient trois mots. Eros, que tout le monde connaît, philia, on connaît aussi, et agapé. Donc à partir de là, effectivement, on peut s'interroger pour voir ce qu'on peut penser de l'amour, mais pas uniquement, je vous le disais, avec des philosophes, aussi avec des écrivains et des personnalités. Je parlerai de L'amour dure 3 ans, de Frédéric Becbédé, qui est un ouvrage assez facile que beaucoup de gens ont lu, mais qui donne effectivement à penser, et puis tout un tas de faits concrets, d'analyses qui ont trait à la vie de chacun, au cinéma, à la littérature, par exemple.
Est-ce que vous pouvez préciser les différences pour les Grecs entre l'amour Eros, l'amour Philia et l'amour Agapé?
C'est difficile à dire en quelques mots. Bon, enfin, Eros, c'est l'amour, je dirais, essentiellement spontané. C'est la pulsion amoureuse. C'est, la sexualité, en gros, pas uniquement, mais c'est ça. C'est effectivement, d'après Becbédé, puisque je vous en ai parlé, l'amour qui dure 3 ans. Lui-même dit avec humour, la première année, on achète des meubles, la deuxième année, on change les meubles de place, et la troisième année, on sépare les meubles, on se partage les meubles. Donc bon, c'est l'amour qui ne dure pas, l'amour éphémère, l'amour qui papillonne un peu, mais qui a, aux yeux de Platon et des Grecs, qui a son intérêt, c'est l'amour humain, et donc effectivement, il n'est pas condamnable, évidemment, en lui-même. Alors quant à Philia, c'était plutôt Aristote qui a étudié ça, c'est l'amour... non pas forcément sans sexualité, mais un peu au-delà de la sexualité. Bon, c'est l'amour d'une mère pour son enfant, c'est l'amour d'un ami pour un autre ami, voilà. Et alors après, effectivement, ce qu'on appelle agapé, c'est plutôt ce qui relève de ce qu'on appellerait aujourd'hui, alors dans le domaine religieux, la charité, ou dans le domaine laïque, la philanthropie, par exemple, bon, les Restos du Cœur, l'ouverture aux gens, le militantisme, qu'il soit social, politique, je pense à Médecins du Monde, à l'UNICEF, oui, bon, ça c'est effectivement agapé, c'est une forme d'amour qui s'adresse à des gens qu'on ne connaît même pas, dont on ne connaît pas le visage et qu'on ne verra probablement jamais, mais pour lesquels effectivement on a des sentiments et une action positive.
Vous avez parlé des Grecs qui avaient 3 définitions de l'amour, est-ce que des philosophes se sont particulièrement intéressés à l'amour?
Ben oui et non, les Grecs, oui. Après, la philosophie s'est intéressée à l'amour de tout temps, mais le plus souvent, l'amour a été, j'allais dire, noyé dans des études globales. Donc on parlait plus de désir, on s'intéressait au désir chez des gens comme Descartes ou chez Spinoza, ou même par la suite chez Kant. C'était plutôt le désir en général des études très pointues sur l'amour, on en trouve relativement peu, ou alors chez les moralistes, carrément, quoi. Mais donc, c'est un peu pour ça que, oui, je fais le retour aux origines, à l'origine grecque, mais c'est vrai aussi qu'on aurait pu parler de l'amour en se référant à des philosophes plus récents ou plus contemporains, oui. Mais c'est un choix, on ne peut pas parler de tout tout le temps. Il faut bon justement ensuite débattre. Les gens pourront donner leurs impressions, leurs avis, leurs réactions.
Est-ce qu'on trouve chez les philosophes des points de vue, des conclusions philosophiques sur l'amour qui sont radicalement différentes, voire opposées?
Oh oui, bien sûr, il y en a qui critiquent systématiquement, je parlais des moralistes, qui critiquent l'amour, comment dire, sexuel, l'amour qui ne dure pas, l'amour qui n'a pas de moralité, entre guillemets, et d'autres qui glorifient, je pense à Nietzsche, tout ce qui est du domaine de la spontanéité, du jouissif. Bon, bien sûr, ça a existé, oui, l'opposition est nette et elle ne date pas d'aujourd'hui.
Est-ce que grâce à plusieurs milliers d'années de philosophie, on peut, comment dire, on peut étudier une évolution de l'amour à travers les âges?
Peut étudier, mais je ne sais pas si c'est forcément le plus intéressant, le plus important, parce que quelque part, ce que j'essaie de montrer, l'amour comment dire, est un intemporel, quoi. Il y a des différences, évidemment. L'amour courtois n'est pas le même que l'amour bourgeois au 19e siècle ou que l'amour aujourd'hui. Mais l'amour est humain, et donc je pense que l'homme étant le même à toutes les époques et sous toutes les latitudes, il n'y a pas forcément de considération spéciale à faire sur le plan historique ou culturel.
Qu'en est-il de l'amour aujourd'hui? Est-ce que des philosophes contemporains s'intéressent à ce sujet?
Oui, je parlerai de Comte Sponville, je parlerai de Luc Ferry qui a écrit un ouvrage sur l'amour, Michel Onfray qui est célèbre par son université populaire, lui aussi évidemment parle d'amour, et oui, bien sûr, il y a pas mal de philosophes qui s'intéressent. Une des grandes études contemporaines, c'est le bonheur. Il y a pas mal de revues qui en ont parlé, et donc dans la mesure où les philosophes parlent de bonheur, ils sont amenés à parler d'amour.
Alain Badiou avait consacré un livre à l'amour dans lequel il expliquait, si je ne dis pas de bêtises, que de nos jours on était un peu dans une logique consumériste amoureuse. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, oh ben mais ça, effectivement, je cite Alain Badiou. Oui, c'est vrai que il y a quelque part, comment dire, une sorte de banalisation peut-être de l'amour, ça c'est vrai. Mais justement, en revenant peut-être à ces concepts de Eros, et surtout Philia et Agapé, qu'on peut effectivement concevoir l'amour un peu différemment. Mais c'est vrai que plusieurs avis sont possibles sur la question, bien sûr.
Une célèbre formule dit que l'amour a ses raisons que la raison ignore. Est-ce que c'est pas une sorte de défi de tenter d'expliquer avec la raison quelque chose qui n'est pas du domaine de la raison?
Ah oui, alors ça, c'est le problème, enfin, le problème initial de la philosophie. La philosophie est souvent démunie pour parler de l'amour, puisqu'effectivement, l'amour ne se met pas en équation, bien sûr. L'amour, tout le monde sait bien que c'est un phénomène qui pose problème, parce qu'il appartient au vécu, au sentiment, et de ce fait-là, il ne peut pas se laisser rationaliser, ou en tout cas, guère, quoi. La preuve, c'est qu'on peut difficilement raisonner un amoureux, quoi. Bon, c'est clair. Donc, oui, bien sûr, il y a un côté un peu limite, et puis peut-être artificiel aussi, à disserter philosophiquement sur l'amour, mais enfin bon, on peut quand même essayer, tout justement, surtout si on prend la précaution de dire que on se limite, que bien sûr on ne peut pas tout dire, qu'on ne peut pas tout expliquer, qu'on ne peut pas tout mettre en concept, quoi. Il y a des choses qui sont indicibles dans l'amour, mais ça, je pense que chacun le sait et en conviendra bien.
La science s'intéresse aussi depuis un moment à l'amour, aux sentiments amoureux. Est-ce qu'en 2016, certaines avancées scientifiques, certaines hypothèses peuvent aider un philosophe à réfléchir à l'amour?
Oui, oui, alors tout à fait, j'en parlerai aussi. Bon, il y a pas mal de recherches qui sont faites dans ce domaine. J'ai trouvé effectivement une philosophe qui s'appelle Lucie Vincent, qui est professeur, je pense, à Paris, et qui effectivement, c'est une chimiste, et qui a travaillé et travaille encore beaucoup sur la chimie du cerveau, et elle tente à expliquer les phénomènes justement de passion amoureuse, le phénomène du coup de foudre qui est bien connu, et puis les phénomènes d'attachement par la suite par des processus chimiques, de fin de chimie dans le cerveau, avec des principes actifs chimiques. Elle parle de la vasopressine qui effectivement maintiendrait la relation amoureuse, la sérotonine qui provoquerait le coup de foudre, si je me souviens bien. Enfin bon, donc elle présente l'amour sur le plan scientifique comme un processus chimique. Et le titre de son livre, c'est Comment devient-on amoureux? Et elle continue ses travaux à Paris et elle a des étudiants qui travaillent avec elle en continuant la recherche sur l'amour, les sentiments au niveau cérébral, donc une vision matérialiste qui se fait, elle n'est pas toute seule à la faire, il y a d'autres chercheurs en France et dans le monde qui arrivent à peu près au même résultat, bien sûr.
Cette causerie philosophique consacrée à l'amour s'adresse à tous les publics?
Oui, enfin c'est toujours un peu délicat, tous les publics, c'est ce qui fait la difficulté de mes interventions, parce que, bon, on m'a demandé justement de viser le plus large possible, j'évite d'être trop spécialisé, d'utiliser parfois même le vocabulaire de la philosophie, ben, je l'utilise bien, mais j'essaie de l'expliquer. Enfin, en tout cas, c'est le débat après, c'est la discussion qui peut, puisque ça fait déjà la 6e ou 7e que je fais, c'est le débat qui peut amener, comment dire, une élévation justement, un approfondissement de la recherche. Il y a eu des débats notamment sur l'utilité des utopies qui ont été très riches. Le public qui était là a vraiment bien participé et je pense qu'on a pu arriver à une recherche vraiment philosophique. Et pour samedi, ben, je ne sais pas, ça dépend de moi, puis ça dépend du public. On fera pour notre mieux, de façon à intéresser les gens. Je crois que c'est ça qui est important, que les gens s'intéressent, qu'ils apprennent éventuellement quelques éléments, et puis après, qu'ils réagissent et qu'ils n'hésitent pas à parler ben, entre eux, avec moi, de façon effectivement. Enfin, ressortir avec un petit plus.
Et vous qui avez étudié l'amour en profondeur, est-ce que vous pouvez nous dire si l'amour dure vraiment seulement 3 ans?
Non, bien sûr que non. Là, c'était une boutade. Même Frédéric Becbédé l'a dit lui-même. Bon, je pense qu'il a dit qu'il s'était marié 3 fois et que la 3e fois était la bonne. Ça fait maintenant pas mal de temps qu'il est marié, et bien plus de 3 ans avec sa 3e compagne. Il est père de 2 petites filles, je crois. Et non, l'amour dure bien plus de 3 ans. Je parlais d'Aristote qui a étudié le concept de philia. Bon, ben, c'est pareil, Aristote a eu 2 femmes, mais la première femme, il a vécu 2 ans avec elle. Et la deuxième, ben, je sais pas combien, une trentaine d'années, quoi. Donc, puis l'expérience montre bien qu'il y a des couples heureux, des couples durables, j'allais dire qu'il faut envie, parce qu'on se dit, tiens, c'est bien quand on voit des gens de 50 ans, de 60 ans et plus qui vraiment s'aiment et qui on voit qui s'aiment simplement en les regardant, on trouve que c'est vraiment bien, c'est peut-être pas un modèle, mais enfin c'est un exemple qui donne à réfléchir et qui est positif.